bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. C'est la bande originale, soyez les bienvenus, ravis de vous accueillir en ce début de semaine avec Leïla Kadhoubouladi, Daniel Morin.
Bonjour Nagui.
Bonjour.
Jérémy Crédville.
Bonjour.
Tout à l'heure, Tanguy Pastureau et notre invité, Jérôme Commandeur.
Bonjour.
Bienvenue Jérôme.
Bonjour.
Wow.
Vous avez changé la table depuis que je suis venu.
Tout, bah à cause de vous. Chaque fois que vous venez, on change la table.
C'est une radio qui fonctionne.
Prenez-le. On a des budgets, ouais, on a un gros budget. Jérôme Commandeur, tout en douceur de retour à Paris, parce que vous fûtes parisien l'année dernière.
Exactement, j'étais à la Gaîté Montparnasse. Et ça n'a aucun intérêt, c'est passé, mais...
Mais maintenant, c'est le Casino de Paris qui vous attend. C'est pour ça que vous êtes venu en parler, d'ailleurs, du 3 au 21 avril.
Le gars qui fait des promos passés, ça c'est très rare.
C'est bien.
C'est très très rare.
J'étais. Pour Pâques, en fait, hein, c'est ça, hein, du 3 au 21. On est, non, j'ai pas les vacances scolaires en tête. Mais...
Il y a toujours des vacances en France, de toute façon. Il y a toujours une zone qui est en vacances, il y a toujours une petite queue de vacances.
Vacances ou Fashion Week, c'est en alternance.
En fonction des... Il faudrait que tu parles avec ton nez, en fait.
Oui, c'est ça.
Mais il était super bien en face du micro, mais on lui remonte. Ah, t'es pas bien. T'es
non,
trop
j'étais
bas.
Pas bien, j'étais... Ouais, voilà.
Tiens-toi droit. Voilà, dis merci à la dame.
Merci madame.
Voilà, très bien. Il est parfait.
Fait plaisir.
Il sort. Ben, c'est à Lyon, c'est quand? Mais c'est demain à Lyon.
C'est complet.
Ouais.
Mais oui, mais c'est quand même demain.
Oui, c'est demain. Complet. Non, alors pour ceux qui y vont, effectivement, c'est demain.
Vous y êtes?
Moi, j'y serai, oui.
pour ceux qui y vont.
Vous êtes sûr? Parce que c'est.
Oui, oui.
Il y a un petit doute.
Il avait
raison. Non, mais effectivement, il n'y a plus de place. Mais pour ceux qui s'y souhaitent s'y rendre et qui ont des billets, ils seront acceptés.
Donc vous êtes vénal, en fait. Vous ne voulez parler que des dates où vous avez besoin de remplir. Donc demain, il sera à Lyon, même si c'est complet. Le 20 mars, ça fera monter comme ça le prix du billet au black. 20 mars à Aix-les-Bains, 21 mars à Sanary-sur-Mer, tout ça dans cette semaine, 22 mars Nice, ensuite 23 et 24 mars à Marseille, Perpignan le 26, 27 mars la Grande Motte, c'est pas un surnom, c'est l'endroit où il sera, le 28 à Bourg-les-Valence.
C'est un surnom,
j'ai rien dit.
Non,
j'ai
alors,
rien dit.
Pour reprendre une expression que vous dites dans le spectacle, un calembour, c'est laquelle? Non, mais si,
ah oui,
sur
Bolt. Ah, je sens qu'il va la...
Oui, c'est je vais pas la faire, non. Quand, un bon jeu de mots, il faut...
Un bon jeu de mots... Non, je me souviens plus de mon texte.
Si vous avez des places pour Lyon, rendez-les. Hein, c'est plus ce qu'il raconte. Hein.
Non, vous
il
faites,
est cramé.
Vous faites un jeu de mots, mais trop... Voilà. Trop
je vais génial. Chercher pendant les pubs. Je vais,
Il n'y
a pas de pub.
Il
n'y
a pas de
pub.
Il n'y a
pas sur Europe.
Toi, t'es trop Europe. T'es trop Europe. Où il n'y a que des pubs. Jérôme, il faudrait dire bonjour à Thierry Lhermitte.
Bonjour Thierry.
Voilà, et qui sort de l'antenne avec Ali Rebbi. Vous serez
il est de plus en plus fringant, ce Thierry. Ouais.
Bel homme, c'est un bel homme.
Il est bel homme.
Quel bel homme.
Le 20...
Jérôme au hublot, il y a Robert De Niro qui vous dit si vous pouviez lui envoyer un petit bisou.
Et tu sais quoi, en plus, j'ai tourné la tête.
Bonjour Robert.
C'est dingue ça. Oh, foutez-nous la paix, les gars. Oh,
bon. Tout en douceur, on va en parler de ce spectacle. On va pas tout vous dévoiler aussi parce qu'il y a des choses qui nécessitent, comment dirais-je. Bah, c'est la notion du spectacle.
Il faut payer une place.
Non, il faut le voir. Surtout, il faut le voir. Ouais, il y a la mise en scène, il y a la manière,
voilà,
la manière dont dont vous épongez le front, c'est vrai, c'est vrai. Même aussi, on parlera quand même des vêtements et de la dégaine, parce que c'est même avec ça que vous commencez avec votre apparence.
Oui, tout à fait.
Mais d'abord des questions concernant Jérôme Commandeur. Dites-moi quel métier rêvait-il de faire quand il était enfant.
Commandeur de bord.
Commandeur, on dit commandant.
Commandant de bord.
Un commandeur de bord,
oui,
c'est quelqu'un qui appelle en disant bonjour, je vais des bords.
Commandant de bord. Mais on a parlé en même temps.
C'est peut-être qu'il voulait
pilote
être commandeur de bord.
Oui, commandeur.
Oui, pilote de ligne ou commandant. C'est les trucs que disent les gamins. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a,
oui, mais est-ce que vous pompiers. Êtes, est-ce que vous êtes allé jusqu'à vous renseigner sur le cursus scolaire pour être commandant de bord? Parce que moi, j'ai fait ça quand même.
C'est
rêver,
vrai.
Rêver d'être pilote, mais après.
Alors.
Après, tu te renseignes. Tu vois qu'il faut faire maths-sup, maths-b, tu dis ok, j'ai
oui, mais t'étais en cinquième et après t'as arrêté.
C'est ça.
Oui, vous avez quel âge quand vous êtes...
Toi, tu regardes, c'est toi l'invité, c'est pas moi.
Les avions venaient d'être créés.
Non, mais pas.
C'était un petit plan, enfin bon, bref.
Une caravelle. Oui. Non, je suis pas allé jusqu'à me renseigner.
Pas jusque-là, d'accord.
Mais ça me fascinait quand on est tout petit, puis qu'on commence à faire les premiers voyages en avion, les parents, et puis là, on veut aller voir le cockpit, on veut...
L'uniforme.
Voilà. Et puis... Tout dit, c'était simple, drôle, c'est là, puis ça vire cul.
Non, elle n'a dit que l'uniforme. Alors c'est vrai que.
Non, elle va faire un clin d'œil.
Elle l'a dit l'ambroisie.
Hyper appuyé.
Avec la bouche entrouverte.
Et le filet de bain.
Truc élégant.
Alors continuons de parler de voyage. Tiens, que fait Jérôme Commandeur?
Il book des voyages qu'il ne fait pas.
Exactement.
Ouais, mais moi je suis au point sur Jérôme Commandeur.
Attendez, c'est Géopardi, il y a les réponses avant les questions.
Mais non, que fait-il avec les voyages?
J'ai jamais compris ce jeu d'ailleurs. Moi,
mais je trouve ça génial.
Qui a construit un monument? Alors, bon, il faut revenir. J'aurais
pas compris le jeu encore.
Géopardi, j'ai jamais compris le jeu.
On embrasse Philippe Risoli.
Ou pas.
T'es à son âme.
Le principe était de donner la réponse avant même que la question ne soit posée.
Non, c'est pas ça, c'est de formuler. Géopardi, c'est formuler la question qui te donne la réponse.
Tout en douceur.
Par exemple, la Tour Eiffel. Quel est l'autre nom aussi de la Grande Dame de Fer, ou enfin
voilà,
je sais pas.
Géopardi, la réponse et la question. Voilà. C'est facile.
Quel rapport avec le spectacle de Jérôme Commandeur?
Sauf que là, revenons à Jérôme, et Jérôme, en fait, il fait un
détendre,
truc qui me fascine.
Vous
c'est
vous
ça.
En termes de vacances, vous
il y a deux choses.
Vous êtes un gros voyou.
Non, si. C'est rien du tout. Non, mais il y a deux choses que je fais la nuit.
C'est quoi la deuxième?
Non, je vais vous donner les deux. Je book des voyages que je ne fais pas. Enfin, je me mets tout mon petit truc, le prix de l'avion, le prix de l'hôtel, le machin, tout ça. Et je vais regarder des annonces immobilières que je n'achète pas.
En fait, vous avez une vie que vous n'avez pas.
Ouais. Exactement.
Tout ce qu'il aurait pu faire.
Mais du coup, vous dépensez moins d'argent.
Bah oui. Tiens, là, je me ferais bien une petite villa dans le Luberon à 8 millions d'euros. Donc.
Mais ce qui est dégoûtant, c'est que vous bloquez donc des places à des personnes qui pourraient...
Non, je les bloque pas.
Non,
mais
pas.
Mais ça me... Je sais pas, ça me fascine. Je passe ma vie à regarder des hôtels.
C'est comme
des
si
plages.
Vous voyagiez, en fait.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Bah oui, exactement.
Alors, on me rappelle en régie que vous avez un point commun avec Elena Noguera, qui allait jusqu'à visiter des appartements en sachant très bien qu'elle les achèterait pas, mais qui avait le vice d'aller pourrir une journée avec Stéphane Plaza pour visiter.
Chasseur
d'appart.
Exactement.
Et c'est la hantise des agents immobiliers, parce que souvent, les gens font ça le week-end. Ils disent à leur mari, leur femme, tiens, allez, viens, on va se faire 2 heures de visite, et puis ils font 3-4 appartements.
C'est ce qui est finalement c'est la grosse différence entre un homme qui va aussi essayer des vêtements dans une boutique et une femme qui va essayer des vêtements. Un homme qui essaye des fringues les achète.
C'est pas vrai.
Alors qu'une femme est capable de passer 1 heure ou 2 heures dans une boutique à faire des essayages et à rien acheter.
Mais c'est si c'est
vrai.
Des vêtements d'homme,
c'est fini, c'est cliché,
vrai.
C'est
pas
fini.
Vrai. Mais non, ça marche pas comme ça. C'est ça serait aussi, ça serait tellement simple.
Ça t'est jamais arrivé d'essayer des fringues et pas les acheter?
Ah non, moi quand je vais chercher des vêtements, c'est parce que j'en ai besoin.
Essayer.
Ah non, moi j'essaye pas pour essayer, j'essaye pas pour le plaisir.
Qu'est-ce que vous voulez dire, que les femmes sont chiantes? C'est ça que vous
voulez dire? C'est ça qu'elles aiment bien essayer des fringues sans forcément les. Alors que nous, il y a une chemise qui nous va, on en prend 3 de la même couleur pour dire ok, c'est bon.
C'est vrai, et on revient un peu.
Voilà.
Non,
on n'aime pas
vrai.
Essayer, nous, on n'aime pas rentrer dans les cabines d'essayage.
Hélène, qui est notre réalisatrice, me dit à l'oreillette qu'elle est avec moi et qu'elle considère en effet que c'est pas si genré que ça. Moi, je déteste aller essayer des vêtements.
T'as vu les fringues d'Hélène?
Ouais. J'ai pas l'impression que ce soit son premier souci. Ni même le deuxième.
Méchant,
ni même
méchant
un souci.
Avec toi, Hélène. Ne t'inquiète pas.
Quel humoriste,
oui.
Femme, Jérôme est allé voir 5 fois en un an.
Robert Foresti?
Non.
Ah, le Mercier.
Oui, absolument.
Ah ouais.
Tellement vous étiez fan.
Ah oui, j'étais fan.
Cinq fois le même spectacle, donc.
Oui, j'ai vu. Oui, j'étais fan. Ça, c'est des rencontres. Enfin, c'est pas vraiment des rencontres parce qu'on est dans la salle et puis le voilà. Mais on est subjugué. Je me dis oh là là, mais quelle écriture, quelle interprétation. Ça m'avait fait ça aussi avec Muriel Robin. Et c'est marrant parce que c'est la même époque. Elles sont à peu près arrivées dans ce métier
en
même temps.
Pardon. Qu'est-ce que vous apprenez professionnellement pour vous, à part le plaisir de voir un spectacle et de le revoir? Vous voulez un mouchoir? Qu'est-ce que vous...
Non, j'ai ma main.
D'accord. Qu'est-ce que vous apprenez? Non, parce qu'à l'instant, on a eu un énorme...
C'est terrible.
Tout va bien, Jérôme?
Petite huître.
Oh, c'est une Gilardo, c'est le numéro 2.
Menacé en ce moment, le bassin d'Arcachon, attention
à la
marée noire.
Oui, bien sûr. Tout de suite, la météo, je vais être colado.
Qu'est-ce que vous apprenez à ce moment-là, Jérôme? Vous apprenez d'abord que ce qui paraît improvisé au premier spectacle, finalement, n'est qu'un effet d'une comédienne pour les 4 suivants.
Oui, c'est ça. Je vois exactement tout ce qu'on fait, tout ce qui part. Alors, chez Valérie Le Mercier, c'est extrêmement cadré parce qu'elle n'est pas du tout dans l'improvisation. C'est toujours le même spectacle, etc. Mais ça m'apprenait, sans savoir que je ferais ce métier plus tard, mais de voir comment fonctionne un effet, comment la salle le reçoit, comment on gère un rire, etc. Oui, ça ça me, je regardais ça, et effectivement, à force
c'était
d'y aller.
C'était il y a une vingtaine, il faut resituer, c'était il y a une vingtaine d'années.
Ouais, c'est ça, ouais.
Hein. Ce 96. Malin, 90.
Il y a aucune captation de Valérie Le Mercier.
Il y en a aucune, ouais.
C'est vrai.
Donc, faut retourner la voir plusieurs fois.
Voilà. C'est aussi exactement. Une bonne solution. Un acteur français, héros de l'enfance de Jérôme Commandeur.
Depardieu.
Thierry Lafond. Belmondo.
Marielle.
Moi, bien, mais elle a travaillé, Leïla.
C'était qui?
Belmondo.
Ah oui.
Ah bah oui.
Mais non, mais il y a plein d'acteurs qu'on aime. Mais oui,
oui
mais bah.
vous avez dit intersidéral. Oh, mon héros intersidéral.
Ah, oui, Belmondo. Parce que, bah oui, bah, comme plein de gamins de ma génération. Moi, j'étais petit, puis on allait dans Paris quand il y avait un film à voir ou quoi. Et je disais à ma mère, tu crois qu'il va sortir de la porte, là? Parce que pour moi, s'il était dans les films, il était un peu dans la vie. Bon, après, j'ai compris que c'était un peu différent. Mais, oui. C'est tout. Il est au-dessus.
Mais en termes aussi bien humour, facétieux.
Oui, c'est ça.
Peut-être aussi ce, parce que c'était le jeu, que ce soit des De Funès ou des Belmondo, d'en faire beaucoup, d'en faire énormément, d'en faire trop.
Oui, puis il y a
de
du...
De Funès faisait moins de cascades que Belmondo.
Tu sais quoi? Le corneau, je me demande s'il était quand même pas au volant.
Il en a fait une fois, il s'est foulé la cheville en descendant de son lit. C'est pas ce qu'on retient. Ouais. Non, sur la barre, oui. Non, mais voilà, je trouvais que c'était extraordinaire. Et puis il y avait ce rapport aux femmes, cette élégance, un truc de séducteur à la française, quoi. Voilà, enfin moi ça me fascinait, quoi. Et puis c'était surtout le héros des cours de récré, parce que c'est vrai. Évidemment les cascades,
les peurs sur la ville, sur c'est la ça. Ville, il courait sur le toit du métro.
Professionnel.
Vous avez une affection, une tendresse particulière pour les personnalités, les gens connus, les chanteurs par exemple. Une rencontre cette fois-ci avec un chanteur.
Nougaro.
Oh ouais.
Enfin, mais comment elle a bossé?
Mais vous couchez ensemble ou quoi?
J'ai vraiment dit quelque chose.
Oui, ils couchent ensemble. Oui.
C'est l'uniforme.
C'est ça. Claude Nougaro, c'est ça. Mais vous l'avez croisé, vous avez été bouleversé.
Oui, c'était à l'époque, j'avais vu un spectacle extraordinaire, que je crois l'un de ses derniers au Palais des Congrès, et c'était vraiment mais fou, il boitait, il était un peu gêné, comment dire, physiquement, et ça l'a pas empêché de faire, enfin je sais pas, c'est un des plus beaux spectacles que j'ai vu. Puis j'ai eu la chance de faire une émission de télé quelques temps après, et je lui ai dit, et il m'a pris, il m'a serré très fort dans ses bras, alors que voilà,
il est tombé.
Non C'est ça, les mecs qui revisitent les anecdotes. Ouais. Oh, il tremblait de me voir. Non, il avait Parkinson. Ah, d'accord. Et voilà, et ça m'a bouleversé, quoi. C'est
aux larmes, vous avez dit même.
Ah oui, vraiment. Bah oui, parce que c'était c'était un immense monsieur, quoi. Voilà.
Non, puis d'une gentillesse démesurée. Et alors, ce qui est formidable, c'est de voir des personnalités qui ont un tel talent et qui restent tout aussi émues et touchées qu'on leur dise « j'aime beaucoup ce que vous faites ».
Exactement, oui.
On a l'impression que cette phrase est bradée et elle a toujours un impact.
Oui. Et puis moi, j'étais très timide. Et puis on se dit, c'est exactement ce que vous dites. Et on se dit, bon, je ne peux pas aller lui dire, qu'est-ce qu'il s'en fout. Et puis en fait, ça crée un moment, ça crée un truc. Et c'est 20 ans après, je m'en souviens encore, quoi. Voilà.
Vous, est-ce que vous écrivez, est-ce que vous dites, est-ce que vous partagez votre admiration, votre amour pour, je sais pas, des acteurs, des actrices?
Si j'écris aux acteurs,
ouais, est-ce que vous, est-ce dire,
que, ouais, ou des réalisateurs?
Bien sûr, est-ce que vous, oui, est-ce que puis vous... je fais des jeux dans Télépoche aussi. Puis j'écris beaucoup.
Non, mais est-ce que dire à quelqu'un,
sur les réseaux, est-ce que j'envoie un petit...
Non, dire à quelqu'un, je vous admire, envoyer un texto, vous, Thierry Lhermitte, par exemple, dire j'aime.
Oh, bah, oui, mais c'est très bien, au contraire, il faut le faire. Mm-hmm. Et puis, je trouve que quand les gens vous ont amené indirectement, évidemment, mais à faire ce métier, il faut leur dire oui, parce que c'est eux qui un peu vous ont ouvert la voie avant. Enfin, moi j'aime bien l'idée que d'autres ont fait ce qu'on fait avant nous, quoi. C'est-à-dire qu'ils étaient là à réfléchir à des vannes dans des petits cafés théâtres
et tout en le faisant différemment.
Oui, peut-être. Oui.
Alors, qu'est-ce qui pourrait être votre différence? Par rapport à n'importe quel acteur.
Une très belle chanson là, Fabien et moi. Ma différence, je sais pas. Non, je pense qu'on vient. C'est pas forcément une différence. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ici sont sur scène avec moi là au micro, mais
oui, mais avec moins de succès.
Mais bouge pas, on arrive. On est droit de gauche, on en a à peine le phare. T'inquiète pas, il y a pas de souci.
On pousse.
Vilain.
Non, je dirais, on va voir.
Dire la vérité, c'est pas. On peut pas.
Mais depuis quand vous dites la vérité?
Non, je dirais, c'est pas forcément une différence. Je dirais une patte. Il y a. Moi, j'aime bien dire ça, mais souvent quand on demande, on est dans une soirée, puis on dit attends, il lui est arrivé un truc. truc et puis on n'est pas capable de raconter ce qui est arrivé au copain. On dit viens, raconte-le toi, parce que quand c'est toi qui le raconte, tu vas voir, il va tout et ça arrive souvent, et je pense que c'est un peu ça la scène. C'est-à-dire que c'est un prisme que seul l'humoriste peut détenir, c'est-à-dire que voilà, on voit tous la même bouteille d'eau, puis il y en a un moment il va commencer à la décrire, on va se dire mais ça c'est hallucinant, c'est extrêmement drôle, et puis bah voilà, bah c'est sa patte. Ça veut pas dire que l'autre fera mieux ou moins bien, mais c'est sa patte.
Mais à partir, vous prenez l'exemple de la bouteille d'eau face à vous.
Là, je peux rien en dire. Hein, c'est une cristalline.
Non, mais Jérôme, mais à partir justement de quelque chose qui trouve écho en chacun de nous.
Oui, ça peut être oui, ou alors des fois.
Vous parlez dans les thèmes que vous abordez dans votre spectacle, tout en douceur. Il y a l'enfance, il y a la mort, il y a
il y a les Vosges,
il y a les régimes. Vous démarrez avec ça en disant je sais ce que vous allez dire. Il a changé.
Non, j'ai dit
trois chiffres.
J'arrive, je dis voilà, bon voilà, on va crever l'abcès. Jérôme, quel est ton secret minceur? Et puis, je dis les légumes. Bon, bref, légumes oubliés, etc.
Et vous en venez au régime et au problème du poids.
Oui. Mais parce que
ça, c'est quelque chose qui concerne tout le monde.
Oui, non, mais c'est surtout que, en fait, c'est que ça me concerne. Du coup, je pense que si ça me parle, ça parlera aux gens. C'est-à-dire qu'il faut être très sincère dans le rapport au thème qu'on aborde. C'est-à-dire que il faut que ça nous parle, il faut que ce soit quelque chose d'un peu tripal, un peu même peut-être un peu douloureux, faut que ça aille chercher un peu là-dedans.
Exutoire,
exactement. Ça. Voilà, il faut pas que ce soit que la vanne pour la vanne. Et quand ça atteint cette dimension-là où on est border entre quelque chose qui, on va dire, qui concerne tout le monde, mais qui fait un petit peu mal et qui est dans l'imaginaire un peu commun, là on peut commencer à en rire parce que ça, on commence à pousser les murs de ce qui est acceptable d'entendre.
Oui, mais alors justement, votre truc, c'est d'aller encore plus loin, c'est-à-dire, évidemment, vous êtes dans l'autodérision et dans la moquerie. Vous faites du mal.
Oui, parce qu'après j'en mets beaucoup aux autres.
Voilà. Et les gens rient à votre dépend. Mais ensuite, vous enchaînez sur des vannes qui seraient en effet qualifiées de grossophobie ou de méchant vis-à-vis des gros.
Alors oui, mais ça c'est très intéressant ce que vous dites. Sauf que oui, alors ça arrive.
Bon. On va noter 11h20. 11h20, c'était un lundi.
Nagui, on a dit que vous étiez intéressant.
Là, la présidente de Radio France, il a dit un truc intéressant. La saison 5.
Il était temps. 5 saisons. Ouf.
Non, mais c'est je trouve que ce qui est vachement bien, c'est que c'est pas filmé. Il y a rien, il y a pas de réseaux sociaux, il y a pas de téléphone, il y a pas de caméra, il y a pas de. Donc c'est vrai que c'est peut-être le dernier espace où on peut effectivement aller très très loin et puis s'adresser à une bande de copains. Alors même s'ils sont 1000, 2000, 3000, mais de se dire allez on comme une bouffe où à la fin
on se lâche,
on va un peu loin, on canarde un peu sur les absences, ceux de la bande de copains qui sont pas venus, et puis il est minuit, puis il y a le serveur qui allez, là il faut vraiment que je fasse ma caisse. C'est ça un one man. Moi j'adore ce truc là de on repousse un peu les limites, et c'est vrai que quand je le fais remarquer aux gens, de dire attention, il y a des médias partout, mais là pour une fois il y a rien, c'est vraiment une heure et demie sans gamin, sans bruit, dans le noir, etc. C'est le dernier espace de liberté.
Alors justement, quand vous dites il y a pas de médias, il y a une chaîne de télévision qui s'en prend mais alors bien
plein. Mais ça finit par 6, non?
Oui, non, c'est parce que je raconte un peu, je comprends pas comment les
gens la seule chaîne de télé sur laquelle vous lâchiez.
Vous lâchiez, oui, c'est pas assez simple.
Lâchiez.
Oui, c'est vrai. Non, parce qu'elle chiait, alors du coup, ça tire l'oreille.
Mais il y avait là avant.
Non, mais je raconte un peu la passion d'M6 pour les cadras. Alors il y a que des cadras sur M6 en général qui témoignent. Alors il y a le père qui a 45, la petite qui a 43, la mère qui a 43, la grande qui a 13. Il y a Damido qui est venu faire la baraque il y a 8 ans. Alors ça commence à tirer la gueule, ça pendouille, pas Damido, hein, la déco.
Elle a collé des stickers partout.
Sur le frigo. Bon, tu me diras, elle connaît le chemin.
Voilà. Non, mais... Et les larmes, et vous dites, je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais il faut pleurer pour passer à la télévision.
Faut pleurer,
En fait, c'est toutes les émissions de...
Le témoignage.
Voilà.
Et surtout, il y a ça sur M6, c'est aussi beaucoup dans la télé.
Cherche appartement et compagnie, quoi.
Oui, partout. Il faut que ça pleure, et surtout, il faut que ça pleure quand on s'y attend pas. C'est-à-dire que les gens, ils démarrent, ils disent, avec Jean-Marc, on a pris une maison avec un plus grand terrain pour que...
La gamine, elle en profite.
Parce que c'est là un petit coup de James Blunt.
Et voilà, et là, un petit coup de James Blunt.
C'est les pleurs de joie. balade.
Voilà, exactement. Il faut que ça pleure. Mais et puis France 2 aussi. Je parle de France 2. Je parle des seniors. France 2, c'est la chaîne des seniors. Voilà. Ils aiment bien. L'après-midi, t'as une vieille qui va vendre une flûte chez Sophie Davant.
Ou une vieille qui fait chanter d'autres.
C'est un problème.
Ils oublient les paroles. Tout ça.
Il est venu. Il peut pas se moquer. Il est venu. Moi, je peux me moquer. Il est venu. La puissance du con aussi, vous lâchez sur ceux qui feraient mieux de se taire.
Oui, non, mais c'est cette manie qu'on a de on nous éduque à essayer de parler en public, avoir toujours la bonne vanne, avoir toujours, et puis du coup ça génère des conneries monstrueuses, quoi. Donc c'est vrai que oui, le con, il en a sous le pied, il a des cartouches sous le pied, il peut te fêler une paupière. Il y a des mecs, si tu veux leur parler, faut mettre des lunettes de soudure parce que ça gicle, il y en a partout.
Mais c'est tellement vrai.
Et c'est vrai qu'il y a ce truc, il faut parler, quoi. Faut l'ouvrir, faut je dis, le chef, il est dans l'usine, il fait son briefing le matin, il briefe 30 mecs et nanas depuis 25 ans, il dit par politesse, il dit, quelqu'un a des questions, par politesse, puis il dit, oui, ouais, ta gueule. Fais-toi expliquer dehors, c'est pas content, tu te fais un mi-temps thérapeutique. Ou casse pas les couilles, quoi, voilà. Ça, c'est
et vous lâchez, vous êtes d'une extrême violence par moment, alors, soit vous l'êtes, et j'ai trouvé ça formidable, soit vous l'êtes en prévenant le public, en disant, je vous préviens là, ça va faire saigner les oreilles, ça va piquer les yeux, et finalement, les moments les plus violents, c'est quand vous ne me prévenez pas, évidemment, et où là, ça fait extrêmement mal.
Ben oui, non, mais c'est-à-dire que, en fait, le fait de prévenir, ils s'attendent à quelque chose, et puis alors je le fais durer, je passe à durer au moins 5 minutes où je me passe mon temps à les prévenir, et puis à la fin, finalement, ils sont extrêmement choqués, mais ça renseigne aussi un peu sur le fait d'aller extrêmement loin, et puis le contexte. C'est-à-dire que si j'avais lâché la vanne, effectivement, sans les prévenir, peut-être ça aurait été atroce. Alors que là, finalement, on va dans des thèmes, parfois même un peu glauques, un peu hard, un peu, parce qu'il n'y a pas vraiment d'humour bienveillant. Je pense que l'humour, c'est un truc qui gratte, quoi. Mais le fait de les avoir prévenus.
Ah non, ça
prévenus,
pique. Vous, ça pique, ça gratte pas, ça pique.
Ce qui est jubilatoire, c'est que vous expliquez pourquoi il faut pas prendre au sérieux ce qui est dit. Vous expliquez, c'est la scène, et là, toutes ces explications-là.
C'est
formidable.
Oui, il y a rien. Oui, il y a rien. Ben oui, parce qu'il y a plein de moments où les gens en fait viennent avec leur surmoi, leurs a priori, etc. Puis dès que vous faites un pas de côté, ils se mettent à hurler dans la salle. Mais je dis, mais regardez, c'est du théâtre. Il y a rien. Je fais rien. Je peux égorger quelqu'un. Je peux secouer ma mère. Je peux machin. Il y a rien.
Quels sont les deux plaisirs que vous avez, celui d'écrire d'un côté, celui d'interpréter de l'autre. Deux plaisirs que vous ne mettez absolument pas dans le même.
Peut-être écrire, parce qu'en fait, c'est...
Je ne sais pas comment choisir, je voulais savoir quels étaient ces deux plaisirs-là.
C'est-à-dire ?
Ben, la différence qu'il y a entre le plaisir d'écrire, de trouver le bon angle, le côté pétillant, puis de le jouer, de l'incarner, de le porter.
Oui, c'est pas la même chose, mais c'est-à-dire que c'est ce qui est très jouissif, moi je trouve, c'est d'être devant son ordinateur, la nuit, l'appart est tout noir, il n'y a pas un bruit, etc., puis on écrit, puis on s'imagine la réaction des gens dans, je sais pas moi, 2 mois, 3 mois, quand ils entendront la vanne, et on se dit, putain, j'espère qu'ils vont la prendre exactement comme je l'ai écrite, comme j'ai voulu la qu'ils l'aperçoivent, et puis des fois, 90% des fois, on se gourre.
Comment vous travaillez, justement, déjà, est-ce que vous travaillez tout seul ou vous avez besoin de quelqu'un dans la cave.
Tout est fait en banlieue de Pékin. C'est des ateliers, et puis ça pisse de la vanne comme ça, puis après ça part dans le monde entier. Et puis il y a des plateformes de vannes sur Francfort, c'est des bourses, hein, Francfort. Va demander à Copy Comique, elle en a parlé.
Vous n'avez pas été la cible de Copy Comique.
Ah non. Non. Et puis je ne le serai pas a priori, j'espère.
On va rappeler quand même pour les plus jeunes d'entre nous qui donc nous écoutent pas. le principe, c'est un anonyme,
un vengeur masqué.
Ouais, quelqu'un anonyme sur Internet qui montre en divisant l'écran en deux, à gauche la version originale, à droite la version copiée entre guillemets de plaisanteries ou d'humour ou de vannes qui ont été faites sur scène, généralement aux États-Unis ou en tout cas généralement anglo-saxonnes et qui ont été reprises par des Français à leur compte, mais des années voire des décennies après. il y a des moments où c'est troublant et où c'est extrêmement
proche. Il y a des moments où c'est troublant, mais sauf que ça dénote une, j'allais dire, une manière d'aborder l'humour que, c'est-à-dire, c'est d'être un peu focalisé sur la vanne. C'est-à-dire, oh là là, il faut absolument, d'ailleurs, ils le savent autour du micro, là, il y a machin, il y a une super vanne, etc. Je pense que c'est pas tout à fait la bonne démarche, la bonne approche, parce que je crois que ce qui fait marrer, c'est la personnalité. C'est qu'on sente quelqu'un qui est là, qui a une vision, peu importe. Moi, il y a des fois des choses, même si elles sont drôles, je les enlève parce que ça me correspond plus, et alors que pourtant ça fonctionne. Donc c'est ça, je crois qu'il faut pas être trop dans l'obsession de la vanne qui fait qu'on peut effectivement aller copier des comiques aux États-Unis, etc. Et du coup, moi, je préfère largement parler de ce qui s'est passé avec ma mère et de faire un focus sur le fait qu'elle demande à mon père s'il a bougé les packs d'eau dans le garage. Ça, c'est sûr que personne, là, Eddie Murphy ou je sais pas Louis C.K. l'ont jamais fait aux États-Unis, mais c'est ma vie, c'est mon truc.
Ni avec votre tati, je crois pas voilà, que beaucoup de personnes aient eu le même comportement avec votre tati. On en parlera tout à l'heure de tati, on en parlera. Jérôme Commandeur est tout en douceur, mais ça pique un peu les yeux quand même, au Casino de Paris et puis en tournée partout en France du 3 au 21 avril, et ça va être un succès. C'est déjà un succès de toute façon en tournée,
oui. Tom Villard. Moi, je sais pourquoi ça va être un succès, et ça va continuer à être un succès, mais il faut que la France le sache. Alors ce matin, une fois n'est pas coutume, je me suis permis d'emprunter la mécanique de chronique de Guillaume Meurice pour notre invité Jérôme Commandeur, parce que je connais plutôt bien Jérôme, et je me suis dit, bah, tiens, est-ce que nos auditeurs le connaissent aussi bien que moi? Et du coup, je suis descendu dans la rue et je suis tombé sur votre fan numéro 1, Jérôme. Bonjour mademoiselle, vous l'aimez bien vous, Jérôme Commandeur ?
Jérôme qui ?
Voilà, alors effectivement, ça part mal, mais je vous rassure, cette jeune fille voit très bien qui vous êtes, Jérôme, fallait juste l'aiguiller.
Jeune fille, t'es sûr ?
Elle a une voix de...
Oui, fallait juste l'aiguiller un tout petit peu. Mais si, Jérôme Commandeur, l'humoriste, le comédien, il a animé les Césars.
Ah oui, c'est celui qui est aussi gros que chauve. Ouais, je l'avais adoré dans Le Baron Célestine.
Oui, bah oui, alors il fallait le choper dans le film, c'était une première apparition, mais...
Qu'est-ce qui m'a fait marrer avec Olivier quand ils étaient sur Comédie, la grosse émission, Cacamou, 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 Lox.
Voilà, on voit bien qu'on y est presque, mais je vous rassure, Jérôme...
Ah oui, non,
Il y en a d'autres qui voient parfaitement qui vous êtes, comme ce monsieur. Bonjour monsieur, vous aimez bien vous, Jérôme Commandeur ?
Jérôme, celui qui a une tête de bougnoule.
Ah oui, non, je crois pas. Je crois rien à voir en plus, je crois qu'il y a des origines italiennes.
Ouais, bah, comme tous ceux qui ont des origines arabes, hein, la feinte. Attention, je suis pas raciste, hein, j'ai un très bon ami qui est.
Oui, merci monsieur, on embrasse Nadine Morano au passage, et puis j'enverrai son numéro à Guillaume Meurice, ça lui fera un client de plus. Mais quelles que soient les idées politiques de ce monsieur, je crois que c'est des proches qui disaient ça, ou je sais pas, ou Popek. Raciste ou pas, ça fait toujours une place de vendu, et vous le faites rire. Et il vous fait rire, Jérôme Commandeur ?
Ah ouais, bordel, il fait marrer. Sauf que là, il paraît que dans son nouveau spectacle, il fait des blagues sur Johnny.
Oui, c'est possible, oui.
Ah, on touche pas à Johnny. Johnny, c'est l'idole. Qu'est-ce qu'il a à causer de Johnny ? Lui aussi, il veut un bout de l'héritage ? Putain, qu'on laisse peinard Jojo se faire bronzer le cercueil sur sa plage à Saint-Barth. Johnny, tu nous manques !
Voilà, on embrasse ce monsieur et je vous rassure, durant ma balade, Jérôme, je suis tombé sur une vraie fan de la première heure, Gisèle, 54 ans. Bonjour madame, vous aimez bien vous, Jérôme Commandeur ?
Ah, je l'adore ! Avec mon mari Jean-Claude, dès qu'il y a un spectacle de Jérémy Commandeur qui passe à la télé, on ne le loupe pas.
Non, c'est Jérôme.
Oui, c'est ce que j'ai dit, oui, oui. Oui, Jérôme, le gouverneur.
Voilà, on n'est pas très loin. Attention, elle vous adore vraiment, Jérôme. Et qu'est-ce que vous aimez chez lui ?
Les petits personnages, tout, l'humeur. Le problème, c'est que dans son premier spectacle, il avait un personnage d'une dame qui bossait dans une mairie. Ça m'a gêné, parce que moi-même, je suis secrétaire de mairie. Je suis au service culture à Ouzoir-la-Ferrière, que je salue. Je suis très portée sur les sujets de l'intercommunalité. Et à chaque fois que j'entrais dans le bureau, les collègues mettaient le sketch pour se foutre de ma gueule. Et c'était usant.
Alors là, en voyant Gisèle, je me suis dit, putain, on a une cliente, faut creuser un petit peu. Et du coup, j'ai creusé. Mais alors, petite question, en quoi ce personnage vous ressemble-t-il, madame ?
Oh, en rien. Par contre, dans le sketch, elle est toujours au RTT, elle bosse jamais. Alors que moi, j'ai un vrai poste. Je suis sous-coordinatrice adjointe en lien avec la zone périurbaine à la culture d'Ozoir. Et je suis en demi-sous-carton thérapeutique.
C'est-à-dire ?
Je bosse le lundi et le mardi jusqu'à midi et demi.
Donc c'est un carton ?
Non, le carton, c'est jusqu'à 13h.
Alors, bien sûr, on embrasse toutes les employées de mairie qui nous écoutent, quoique à mon avis, ça fait 2 minutes qu'elles sont parties en pause-déj. Et cette Gisèle, vous allez sûrement la recroiser, Jérôme. Et vous allez aller le voir au Casino de Paris, Jérôme Commandeur ?
Et comment ? Par le CE de la mairie, on a réussi à avoir des places à 12,50€.
Ah oui, c'est pas cher, hein ?
On est en catégorie 6, derrière le pilier, au 10e rang, près de la sortie de secours.
Ah, d'accord.
Ah, bah, comme dit mon mari, entre toi et le pilier, je serais coincé entre deux poteaux. Bon connard, celui-ci aussi.
Donc, vous voyez, Jérôme, il y aura déjà Gisèle au Casino de Paris. À mon avis, elle ne sera pas la seule. Et je remercie tous ceux qui m'ont répondu dans la rue. Enfin, tous ceux, celui, hein, parce qu'il est à cette table. Et c'est Jérôme. Bonne émission.
Ah, d'accord.
Ah, mais tu savais.
Non, mais je savais pas.
Gisèle. Ah, oui.
Non, moi, je l'avais sur Gisèle.
J'ai pas reconnu.
C'est vrai?
Sur Gisèle, je l'avais. Mais les,
ah
deux,
bon
les deux premiers, je l'avais.
Ah, les deux premiers, vous les avez pas.
Ah, non, j'ai pas du tout reconnu. C'était Jérôme Commandeur qui
s'est fait les trois voix.
Ah, mais je me suis dit, la quelle auto-dérision. Mais quand
j'ai. Ça s'appelle.
Amenez les poulardes. Amenez les sangliers.
Ah, d'accord. À un moment, je me suis dit,
j'ai pas du tout reconnu la voix.
Ah, ouais,
écoute, j'avais sur le troisième.
J'ai même eu de la peine à un moment. Jérôme Commandeur, tout en douceur. Le titre, vous est venu comment, justement? Parce que ça pique par moment.
L'affiche aussi est très belle.
Oui, parce qu'en fait, on s'est dit...
Parlons de l'affiche. Ah, oui. Une pub pour Willit, on est d'accord.
Exactement. Direct. Oui, c'était un petit clin d'œil à Isabelle Adjani dans la pub Willit, parce que souvent, on nous confond.
Elle appréciera.
Et donc, tout en douceur.
Non, parce qu'il y avait très peu d'humoristes où il y avait cette idée un peu de cocooning, de bienveillance, de... Normalement, c'est ou le nez rouge, ou les bras écartés, ou je sais pas, ou l'humoriste qui monte son postérieur ou je ne sais quel
non, ça c'était Paul Naref, ça
voilà. Mais et du coup on s'est dit tiens et puis j'aimais bien l'idée de faire un truc un peu noir, un peu trash, un peu, et en même temps qu'à la fin du spectacle ben on puisse on ressort tous ensemble quoi. J'aime
on
bien
est câlin
idée.
Oui
ouais, on est câlin
la fin on est câlin clairement, est câlin, ouais. Clairement. Casino de Paris est en tournée donc Jérôme Commandeur, c'est extrêmement drôle et ça nous fait plaisir de vous le dire droit dans les yeux et d'aller vous applaudir et d'y retourner parce que pour ceux qui ont déjà vu le spectacle l'année dernière, ouais. Il y a eu une évolution avec ce qui va se passer au Casino de Paris.
Oui forcément parce qu'en fait en jouant tous les... Alors j'aime pas le côté impro, j'aime pas dire j'ai fait 15 minutes là, 20 minutes sur le pull du mec au premier rang, mais par contre une phrase après phrase, effectivement le spectacle évolue tout doucement quoi.
Est-ce qu'il y a des choses que vous réécrivez ou que vous écrivez en plus ou que vous retirez parce que vous dites, parce que peut-être même des personnages auxquels vous n'êtes plus spécialement attaché, pas jusque-là.
Ah, j'aime bien l'idée de d'avoir calé quelque chose et puis de donner la même chose effectivement ville après ville.
Jérôme Commandeur au Casino et au Casino de Paris pardon et en tournée partout en France et tout de suite voici Jérémy Crédville.
Yeah. Bonjour à tous, ça va? Ouais. Je ne vous entends pas France Inter, ça va? Ouais. J'entends toujours pas.
C'est... Ouais, t'es sourd. Non mais j'avais mal réglé mon casque.
Ah, voilà.
Bon alors, vous connaissez mon goût pour tout ce qui est subversif et je trouve que le mot maillot de bain est l'un des mots les plus mal employés au monde.
Ah
c'est vrai. Déjà c'est pas un maillot. Parce qu'un maillot, faut des manches. Si t'as un slip avec des manches, c'est un short. Ensuite, de bain. Non, maillot de piscine, maillot de plage, de rigueur, maillot de spa. Mais maillot de bain, non. Parce que tu mets pas un maillot de bain dans ton bain, sauf si t'es complètement taré. Et c'est pour ça que je dis que le mot maillot de bain est très mal employé. Voilà, j'ai mes combats. Tout ça pour dire que j'étais à Bruxelles la semaine dernière et les Belges détestent les Français. À cause de la Coupe du Monde. J'étais dans un bar et le serveur ne voulait pas me servir parce que j'étais français.
Carrément.
Ouais. En tant qu'homme blanc hétéro et athée, je suis quand même censé être à l'abri des injustices. Des injustices.
De l'articulation aussi.
De l'articulation.
C'est un reste de bière que je me suis fait tout seul.
Non mais, en tant qu'homme blanc hétéro, voilà, j'étais censé être à l'abri des injustices, mais là je me suis senti homo, merci, noir et musulman. Presque femme, rendez-vous compte.
Ah non.
Ne pas me servir parce que j'étais bourré. J'aurais compris. J'aurais loué son professionnalisme même. J'aurais dit, bravo Cédric Vente de Pute. Faire passer la santé publique avant le profit, c'est magnifique. Enfin, vu mon état, j'aurais dit... Mais là, non. Le mec, bonsoir. Le mec a refusé de me servir parce que, je le cite, vous nous avez volé la Coupe du Monde.
Ah oui. Bon,
comme j'ai fait belge en LV1...
On dirait Guillermo, dis donc.
Attends, comme j'ai fait belge en LV1, je lui ai répondu dans sa langue. Bon, alors déjà, on ne vole que ce qui appartient à quelqu'un, vieux. La Coupe du Monde, vous ne l'aviez pas gagnée, donc sémantiquement, on ne l'a pas volé, grosse
exact. Bête.
Bonjour les amis. Non, Guillermo, tu restes en dehors de tout ça. Restez en dehors du foot et de l'alcool, ça va être compliqué. Bon, et puis... Vous nous avez volé la Coupe du Monde. Non, si vous nous l'avez volé. Ce serveur sapien, c'est raison, c'est de votre faute. Non, mais putain, ils vont se calmer les frères Taloche. Ni vous, ni moi n'étions sur le terrain en juillet 2018. Moi, perso, je l'ai pas gagné, la Coupe du Monde. Hein. Moi, j'étais en tongs avec une grosse bière à la main pendant qu'une dizaine de joueurs de foot qui représentent mon pays mettaient une petite pétée à d'autres joueurs de foot qui représentent le vôtre. Ah, ça me donne envie de crever dans un essuie-tout. Ouais, bah, vas-y. Non, mon seul point commun avec eux, c'est que j'étais en short aussi. Mais j'ai pas joué. J'ai pas marqué. Donc, toi, là, fais ce que t'indique ton métier de serveur, à savoir me servir une bière. Et là, le mec en sert une à Guillermo et deux pour moi.
Alors, je lui pose la même question qu'à Nagui quand je vois ses chaussures. Pourquoi ?
Il m'a dit, il y en a une pour toi et une pour Olivier Giroud parce que lui non plus l'a pas marqué.
Bon, voilà, bon. En tout cas, faut arrêter, c'est vrai. Faut arrêter de détester plein de gens parce que quelques personnes qui le représentent vous ont blessé. Vous voyez? T'as des mecs qui détestent les femmes parce qu'ils se sont fait larguer par une femme. T'as des gens qui en veulent à tous les plombiers parce qu'ils se sont fait arnaquer par un plombier. T'as des gens qui haïssent tous les clochards parce qu'ils ont vu Michel Houellebecq une fois. On appelle ça des amalgames. Les amalgames, c'est comme à l'épicé. On fait ça tous les jours et les vieux encore plus, mais sans s'en rendre compte. Il y en a même chez les animaux des amalgames. Tous les pitbulls ne sont pas méchants. Hein. Il y en a même, par exemple, un chauve à lunettes de soleil qui chante en espagnol.
Ouais. Ouh, oh là, fou,
lui mériterait d'être piqué. Ouais. Par contre, les propriétaires de Yorkshire qui mettent une photo de leur chien sur leur porte avec marqué en dessous.
C'est un artiste qui s'appelle Pitbull. Mais si tu connais pas, tu n'as pas la vanne.
Ah, mais ouvrez-vous. Par contre, les propriétaires de Yorkshire qui mettent une photo de leur chien sur leur porte avec marqué en dessous « Je monte la garde » sont tous complètement cons. D'ailleurs, j'ai fait un double amalgame que personne n'a relevé en début de chronique. Mais oui, j'ai dit que j'étais à Bruxelles et que les Belges détestaient les Français. Or, Bruxelles n'est pas tous les Belges et je ne suis pas tous les Français. Vous voyez, penser par amalgame et faire ses courses au supermarché, ça finit pareil. Tu te crois malin en mettant tout dans le même sac, au final, ça craque, t'as juste l'air con. Je vous laisse méditer là-dessus, moi j'ai deux bières qui m'attendent.
Merci, Jérémy Crédville.
La bande et originale. Jérémy Crédville, c'était 6 dernières à la Comédie des Boulevards. C'est du jeudi au samedi jusqu'au donc 30 mars. Exactement. Il faut se précipiter.
On parlait de l'humour belge ou et de l'humour français. Vous parlez de l'humour nord-coréen.
Oui. C'est un pays qui n'est pas bien estimé.
Jérôme Commandeur, vous parlez de l'humour nord-coréen. Je m'attendais
c'est
à tout
niche,
sauf à
ça. C'est une niche.
C'est méjugé.
C'est pas le même humour que nous. Ouais. C'est pas le même humour que nous, c'est sûr. C'est un humour... qu'est-ce que je dis ? Oui, non, je dis... non, mais Kim Jong-un, il est là le matin. Il dit, tiens, amenez-moi tonton.
Kim comment ?
Kim Jong-un. Ouais. Voilà, il dit, amenez-moi tonton. Alors, on lui amène tonton. Ouais, tu voulais me voir ? Oui. Voilà, bon, c'est tout. C'est juste ça.
Non, mais vous allez plus loin. Vous dites carrément une espèce de dictature pourrait faire du bien à notre pays.
Non. Non, pitié.
Si, c'est ce que vous dites.
Non, je dis...
Quand vous remettez cet uniforme nazi à un moment donné sur scène...
C'est une waffle, ça n'a rien à voir.
C'est très bien coupé.
Hein. Moi, c'est Hugo Boss. Hein.
Non. Je dis pour ceux qui ouvrent leur gueule tout le temps à tort et à travers, je dis voilà, bon, on va partir en Corée du Nord, on va rentrer, on aura des bourrés. Effectivement. je dis non, mais c'est pas que les Coréens du Nord ont rien à dire, c'est qu'ils ont pas le droit de le dire. Voilà. Alors que nous, on a rien à dire, mais on le dit toutes les deux heures. Voilà.
Mais voilà. Non, mais vous parlez, il y a un petit un parallèle avec l'éducation, avec la manière dont les parents sont plus ou moins laxistes ou avec les enfants. Enfin non, il y a une idée de fond. J'ai l'impression, je sais pas dans quel état d'esprit vous étiez quand vous avez écrit ce papier. Vous étiez énervé sur l'actualité.
Non, mais c'est vraiment du second degré parce que en fait, c'est ce qui m'amuse.
Il y a toujours une part de vrai.
Oh, dis donc, il va arrêter de me casser les couilles. Il a du mal.
Et boum.
Dites la vérité une fois dans votre vie.
Non. En plus, moi, c'est parce que ça, ce qui m'amuse, c'est de manier des concepts comme ça, puis un peu comme un apprenti sorcier, de les sortir du chapeau, puis clac, les rentrer, quoi. C'est ça. C'est d'ailleurs la seule chose qu'on ait à faire sur scène, quoi. Voilà.
Tout se permettre.
Exactement. Ah oui, là, vraiment. Oui. Je crois. Enfin, c'est le seul endroit, d'ailleurs.
Il y a rien que vous vous interdisez, en fait. Il y a pas un sujet, une thématique où vous dites, bon, là, non. Soit parce que, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, c'est pas suffisamment personnel ou ressenti sincère pour pouvoir le faire juste sur scène, ou parce que vous estimez que c'est peut-être pas la peine d'en rajouter une couche sur un sujet qui est pas forcément...
Oui, alors après, effectivement, il y a une question de... C'est très vrai, il y a une question d'air du temps. C'est vrai que on dit souvent, ah, on peut plus rien dire aujourd'hui, mais oui, mais enfin, sauf que aujourd'hui, les communautés existent différemment. On arrive à la PMA, à la GPA, le monde avance, donc forcément, des repères d'il y a 30 ans, même si on s'en étonne et que ça fait bizarre, sont peut-être plus forcément d'actualité aujourd'hui pour pouvoir en rire. Après, moi, je pense qu'on peut aller très loin dans l'humour, dans la mesure où le type sur scène n'a pas une revendication politique ou est pas là pour faire passer un message. Moi, ce que j'adore, c'est une espèce de chamboule-tout un peu vivant, un peu comme ça, un peu acide, où on envoie des balles sur des boîtes de concert, mais surtout à la fin, ça c'est très important pour moi, on ferme le bouquin et on va boire un coup tous ensemble.
Alors, mais avant le câlin, final, il y a quand même eu la paire de claques qui peut faire du bien pour remettre des personnes à leur place, et vous, comment dirais-je, vous préparez déjà la réaction en disant oh, il est réac. Et c'est vrai. Alors tiens, on parlait du c'était mieux avant. Michel Bernier aussi démarrait son spectacle avec le c'était mieux avant.
Oui, c'est vrai.
Vous faites évidemment pas du tout tout, tous les deux de la même façon, mais vous analysez aussi le c'était mieux avant avec une justesse historique.
Ben, oui, non, mais c'est parce que en fait les gens sont obnubilés par le, enfin, gens d'une certaine génération d'ailleurs, sont obnubilés par le c'était mieux avant, alors on vous glisse ça dans les dîners de famille à Noël, machin, dans les réveillons, je sais pourquoi, l'été, dans les barbecues, c'était mieux avant, on peut plus. Et puis je dis oui, mais enfin, c'était mieux avant, peut-être, ok, mais enfin, au 14e siècle, à l'époque de la lèpre, bon. À l'époque où les bras des gens tombaient comme des poires pourries, bon. Celui qui avait une bonne blague caramba entre les doigts, il la lisait, ça ressoudait le groupe.
Non, mais c'est extrêmement drôle. Jérôme Commandeur, tout en douceur au Casino de Paris et en tournée. Il y a de la musique aussi. Tout à l'heure, vous vous donc auto-moquiez de ce sketch que vous faites sur Johnny Hallyday. Il y a du Johnny, vous chantez Johnny.
Gabriel.
Oui. Non, c'est un petit biker qui passe là, par là. Oui.
Ouais, il chante Gabriel, il chante.
Là, il chante, ouais, c'est vrai.
Un petit medley. Il y a tant d'hommes, je ne suis pas. Je te promets le seul. Ouais. De ma bouche.
Aucun fan de Johnny Hallyday ne s'est plaint?
Non, mais moi, moi le premier, hein, moi je suis un grand fan de Johnny, je mets ça dans ma voiture, je gueule comme un...
comme un putois,
comme un putois. Et je suis heureux.
C'est un cabriolet, donc oui. C'est gênant pour les autres.
Et là, je suis heureux, quoi, je suis vivant, quoi, voilà.
La bande originale de Jérôme Commandeur, du moins ce qu'il écoutait dans sa jeunesse, dans les années 90.
Oh, mais ah, c'est oui. Bon, ça, et ça baisse.
Ah, c'est votre adolescence, ça, Ace of
Base. Ah oui, oui. 94, ça doit être ça.
Ouais. Et fin des années 90, donc pendant que vous écoutiez Ace of Base, Jérôme, vous voyez où? Vous êtes à quel...
Fin des années 90?
Ouais.
Vous écoutez ça dans votre chambre, ouais, avec un poster de quelqu'un sur le mur ou pas?
Non, 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 non. Oui, Ace of Base. Non, ça devait être l'année de mon bac. C'était, ça devait être Nirvana. Ouais. Un peu toutes ces. Ouais. Que...
Le rock, quoi.
Que Kurt Cobain, Marcel Amont. Enfin,
ouais. Qui envoie.
Vous avez suivi quoi, gueule, plutôt, quoi, un cursus scolaire tranquille, élève attentif, un peu clown,
ouais,
quelques
ouais.
déboires.
Ouais, clown, déconneur et, si je dois être tout à fait honnête, pas très bosseur.
Ah.
J'étais pas mauvais, mais enfin, j'avais pas des notes terribles. Je pense que j'en aurais mis un peu plus, voilà, un peu plus d'entrain, un peu quoi, plus.
Ouais.
Et quand on déconne à l'école, c'est pour séduire les autres, c'est parce qu'on n'est pas bien dans sa peau et que d'un coup, on devient une grande gueule.
Pour s'occuper.
Je crois que c'est surtout ça. Ouais, ouais. Non, mais c'est que. Oui, non, mais je crois que c'est vraiment le plaisir de faire marrer.
De faire
puis, le rire du cancre, c'est vrai que faut le dire, quand on est 5 au fond à côté du radiateur, qu'on en a rien à foutre de la trigonométrie et des x au carré, et que la prof il a plu et qu'elle a les cheveux mouillés sur la gueule et qu'on dirait un caniche, bah c'est vrai qu'on fait une heure dessus, quoi.
Ouais. Alors vous avez le bac, ensuite vous vous inscrivez à Sciences Po.
Non, j'ai fait une prépa Sciences Po que j'ai raté.
Ouais.
J'ai remporté brillamment parce que j'ai raté.
Prépa Sciences Po, ça sent le truc payant, ça, non?
Ça, c'est un, voilà. Après, j'ai tenté les examens. J'ai pas assez bossé. Et j'ai dit à mes parents, bon, bah, en fait, Sciences Po, c'est pas très grave. Je vais,
à la fac.
Voilà, je vais aller à la fac. Mais en fait, je voudrais être humoriste. Et, donc ils m'ont dit, bon, bah, ramène-nous un diplôme. Et puis voilà. Et on te foutra la paix.
Et c'est ce qu'ils ont fait vraiment?
Oui, bah oui, je suis allé jusqu'en licence de lettres, ce qui est pas mal. Après, je suis allé en maîtrise, mais j'ai pas validé. Et puis, il y a que sur Inter, on te check le CV. Hein,
ouais, ouais. C'est LinkedIn. Hein,
et qu'est-ce qui,
t'es pas sûr de rester après-midi. Hein.
Pourquoi Jérôme Commandeur écrire ou travailler un mémoire sur Jack Lang?
Ah non,
bah carrément.
Non,
c'est
pas Jack
Lang. Un aspect de Jack Lang. C'est-à-dire pourquoi
non.
Une... Enfin, moi, ce que j'ai trouvé, c'est ça, c'est que pourquoi.
Arrête, il t'a dit. Arrête,
non. Ouais, mais c'est pas grave.
Non, c'est pas ça.
C'est pas l'arrêter. Hein.
Non, c'était pourquoi. Je faisais parce que j'aimais beaucoup l'actu, la politique et tout ça. Puis c'était pourquoi les hommes politiques, à l'époque, écrivaient des bouquins sur les.
Des biographies, ouais.
Voilà, des biographies d'histoire.
Ouais.
La première fois où le public vous découvre, c'est
Graine de Star sur M6. Oui.
C'est pour ça que vous vengez d'M6 maintenant dans votre spectacle. Ça s'appelle la reconnaissance du ventre, c'est bien, c'est classe.
C'est classe.
En 2000, Jérôme Commandeur, vous écoutiez.
Ah oui.
En fait, vous aimez sortir en boîte, vous?
J'ai bien aimé, oui. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Oh, pas tard, hein, tu vois, c'est 7h, hein, le temps que le soleil se lève.
Mais j'avais un petit niveau. Et je voulais que les autres en profitent.
Ouais, bah en vodka pomme, je suis pas mal. Hein.
Une licence de vodka.
J'ai une licence de vodka
pomme. Ça, je l'ai validé.
Mojo avec Lady.
Et on vous retrouve en 2000, Jérôme, dans Rince ta baignoire.
Oui.
Une émission
que j'ai animée sur France 2.
Ouais. Ouais,
et qui était vachement bien, qui cartonnait en plus.
Oui, oui, oui. Il y a plein de gens qui étaient autour de moi, Marie Drucker, Elisabeth Chungi, Anaïs Bouton, plein de gens que j'embrasse d'ailleurs. Et c'est super. Moi, c'est vraiment ma.
Fallait quoi écrire un sketch tous les jours et...
Oui, non, c'était une hebdo et du coup, il y avait plein de reportages. On accueillait les invités déments. Je sais pas, on a eu Mary J. Blige, Ben Harper, enfin plein de gens formidables qui venaient quand même dans une toute petite émission sur France 2 à 17h30, je crois. Et mais c'est magnifique. Enfin, quand vous aimez ce métier, que vous aimez écrire, recevoir des invités. Mais j'étais très jeune, j'avais 22 ans. Quoi?
Ouais, ouais. Il grince là. C'est pas Amanda Lear, hein. C'est Jean-Luc Commandeur qu'on soit.
24?
Ouais. Bon, il a moins de barbe, quand même.
Mais ça va pas. 98, je suis né en 76. Oh, les chiffres et les lettres, là.
Oui.
Et l'émission avec Michel Field, c'était quoi?
Oui.
C'était ça, ça a pas marché.
Chante la vie chante.
Chante la vie chante. C'était un truc de chorale. Ça a pas marché. Peu de gens ont fredonné.
En 2005-2006, vous écoutiez.
Ah oui. Là, on sent.
Ouais. Sent la maturité.
Ah, ouais.
Là, il commençait à se faire recaler.
Keane, Everybody's Changing, et lui aussi a changé.
Et à cette période-là, en tout cas, c'est votre premier one-man show.
Oui.
Danny Boone vous produit.
Exactement. Oui, il était venu.
Comment vous rencontrez ?
Il était venu me voir à la radio. Je faisais des sketchs sur Rire et Chansons avec Arnaud Ducret. Mm-hmm. Et il vient me voir et puis il me dit j'ai vu un sketch à toi à la télé. Ok, je vais venir te voir et puis si ça m'intéresse, on fera des trucs après ensemble. Et puis je pensais qu'il donnerait pas suite parce qu'on dit beaucoup de choses dans ce métier, etc. Il était là le jour J, à l'heure dite. Il était devant la caisse. La fille, elle en revenait pas parce que c'était un tout petit théâtre. Ça s'appelle le Tambour Royal à Belleville. Et 3 semaines après, il me produisait, il m'a fait jouer dans 3 de ses films. Il a produit mon film ensuite après, 7-8 ans après. C'est, je crois, peut-être la plus belle rencontre que j'ai faite dans ce métier.
Alors justement, parlant de ce film, on est en 2016, vous écoutiez.
Encore la boîte. Désolé, mais bon.
Oui, mais ça va mieux.
Mais là, on est plus dans le vodka pomme, on est dans le magnum de champagne.
Là, ça rigole.
Avec le fumigène autour. Oui.
C'est là que je me rends compte, maintenant qu'on les a écoutés à la suite, que ça fait quand même le gros.
Ça fait le tuffeur.
Ça vous manque, là, il y a un truc, c'est un message.
Jérôme le clubbeur.
Hein?
Jérôme le clubbeur, ouais.
Et justement, c'est le premier film 2016. Ma famille t'adore déjà. On vous avait reçu justement pour ce film avec Déborah
François. Avec Thierry d'ailleurs qui vient de passer.
Avec Thierry Amit, ouais.
Arthur Dupont, Marianne Chazelle. Première fois que vous passez derrière la caméra, c'est un film qui a mis longtemps à aboutir.
Production de Danny Boone.
Voilà, exactement. Boone, ouais. Exactement. Et pâté, ouais. Oui, longtemps, oui, je crois, 3-4 ans. Oui. C'était tiré d'un sketch que je faisais sur scène dans mon précédent spectacle. Et puis on l'a un petit peu customisé pour que ça puisse devenir évidemment un peu plus cinéma. Quoi.
Et c'était logique pour vous de passer à cette étape-là ou c'était un grand questionnement longtemps?
Non. J'avais très envie. Puis c'est vrai que c'est un métier. Alors d'ailleurs, je dis avec beaucoup d'humilité, il a fallu que je fasse un film pour que je comprenne que réalisateur c'est un vrai métier, parce que j'ai vu que c'était pas une mince affaire. Et puis voilà, j'aimerais bien recommencer, mais dans quelques années. Ouais.
Nous recevons Antoinette Collin. Bonjour Antoinette, bonjour. Merci de venir à ce micro. Vous êtes directrice artistique des théâtres du Point Virgule, que ce soit petit et grand.
Absolument.
C'est-à-dire le petit est toujours au même endroit.
Voilà,
l'authentique.
Pas le petit.
Et le grand est au Montparnasse, en face de la tour. Justement, vous qui avez ces différentes scènes et qui donnez des chances, leur chance à certains artistes, est-ce que l'humour français, votre regard sur l'humour français, voit une évolution ces dernières années?
Oui, dans la mesure où l'évolution, pour moi, se note sur la singularité de chaque artiste. Et il y a toujours exactement la singularité, c'est vraiment en général il y a toujours une personnalité qui sort. Alors, c'est pas une étude mathématique précise, hein, mais j'ai remarqué de par ma petite expérience tous les 6-8 ans il y a vraiment quelqu'un qui sort du lot. Et moi, quand je suis arrivée, par exemple, il y a Foresti qui émergeait, qui explosait. Mmh. Et l'après Foresti a été relativement long. Enfin voilà, mais c'est un travail qui est tellement quotidien, c'est une remise en question qui est tellement forte à avoir. Et puis c'est souvent aussi une histoire d'entourage, de réussir à se créer un entourage et puis de travailler, enfin de d'être auteur, d'être interprète.
À l'inverse, on dit qu'il y a comme ça des gens qui explosent, des artistes qui explosent et qui font, et comme Jérôme Commandeur, des tournées, et qui ont une notoriété, une popularité.
Ils sont complets à Lyon.
Mais pour combien d'artistes qui sont montés sur scène et qui ont cru et qui vont devoir redescendre de l'estrade?
Ouf, c'est difficile. Moi, souvent, ce qui se dit dans le métier, c'est que l'après point virgule, l'après 100 places, c'est très difficile. Parce que jusqu'à 100 places, vous pouvez vous autoproduire. Mmh. Vous pouvez vraiment faire appel aux copains, tracter tous les soirs. Enfin voilà, on peut se bouger.
Faut quand même les remplir, hein, pardon. Hein, c'est pas.
Oui, mais au début,
faut pas négliger 100 personnes qui viennent vous voir.
Ah ben c'est pas tous les soirs qu'on a 100 personnes, évidemment. Mais déjà, quand on a 10, 15, 20 personnes, voilà, c'est vraiment. Il m'arrive encore de croiser des gens qui dans le Marais qui ont vu Florence jouer devant 12 personnes et qui sont ravis en disant j'y étais, je faisais partie des 12. Et ça, c'est une anecdote qui beaucoup d'artistes ont cette anecdote là. Mais c'est très très.
Alors ma question de manière un peu plus violente. Est-ce qu'il y a trop de personnes qui se croient capables d'être humoristes et
heureusement, c'est-à-dire que tous les mois, on a une journée porte ouverte d'audition. J'ai en moyenne entre 20 et 30 personnes.
Voilà, c'est une journée porte ouverte pour que les humoristes sortent de la salle.
Ça me semble plus long. Mais disons que.
La porte de sortie.
Parfois, de manière ironique, je dis on a affaire à des génies. C'est vrai que souvent, les artistes qui arrivent sont convaincus d'inventer un truc, d'inventer une thématique, de parler.
Être le premier à faire ça.
Être le premier, voilà. Et c'est vrai que c'est bon, quelque part, faut y croire, évidemment. Après, c'est une fois plus dans le travail qui fait.
Pour tenir sur scène, il faut un minimum, peut-être pas de prétention, le mot est peut-être un peu fort, mais il faut croire en soi, il faut un peu d'amour propre et de fierté en disant
Il faut une grosse dose d'ego.
Bah oui.
C'est évident.
Ça peut être mal pris, la grosse dose d'ego, ça peut être prétentieux, mais simplement, il faut croire en soi et ne pas simplement avoir un don que l'on travaille et qui devient un talent. En plus, il faut se dire, je vais y aller et je serai meilleur. Ouais.
Exactement. Moi, je pense toujours qu'il y a une chose qui ne s'invente pas, c'est la générosité. C'est quelque chose qu'on ne fabrique pas. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé à plusieurs reprises, et je ne donnerai pas de nom, mais notre boulot, c'est d'armer un artiste. C'est-à-dire que souvent, il y a un manque de co-auteurs, de metteurs en scène. Enfin voilà, on essaye de dire à un comédien, pense à un tel, tu devrais solliciter un tel, un tel, un tel. Et c'est arrivé plusieurs fois d'armer les artistes. Et le petit plus, personne ne peut le faire. Voilà, le vrai moteur d'un artiste, c'est lui-même.
Et alors, comment déceler des nouveaux talents? Est-ce que d'abord c'est vous qui allez les chercher, ou est-ce que vous êtes tellement culte au point virgule que vous attendez qu'ils viennent vous voir en disant est-ce que je...
On n'attend pas. Après, c'est vrai qu'on a la chance, la notoriété du point virgule, on la doit aux artistes avant tout. Ouais. C'est vrai que le fait d'avoir des artistes dans toute la France qui tournent et qui
sont passés par chez vous,
par le point virgule, relais des médias, etc., fait que on est devenu une marque forte dans le métier. Donc ça, c'est évident qu'on a tous les jours, je reçois entre une bonne vingtaine d'artistes, de mails, de vidéos. Enfin voilà, on a beaucoup de sollicitations, c'est énorme. Ouais. Moi, ce que j'aime.
Faut avoir le temps de voir toutes les propositions.
Et puis comment trier surtout.
Ouais. Moi, j'essaye vraiment d'être la plus open dans le sens où. Parfois, on peut avoir. C'est vrai qu'on a une génération très jeune là qui arrive, et ça fait un moment qu'elle est sur le terrain, mais où il y a une facilité à se filmer. Donc avec tous les moyens, c'est pour ça qu'on a beaucoup de demandes. Et ça prend du temps effectivement.
Tous les youtubeurs, tous les vidéastes, on en parlait avec Tonio Life, ne sont pas capables d'être forcément sur scène et de porter un spectacle et de le jouer, parce qu'il y a une part d'acteur aussi. Il y a une mise en scène.
Il n'y a pas de montage en fait. C'est ça.
Et voilà, c'est ça.
Bah, disons, l'avantage des auditions, c'est qu'on sélectionne sur 5 minutes.
Non, c'est vrai, il n'y a pas de montage. Il n'y a pas de montage et il n'y a pas de deuxième prise, quoi. Il faut tout de suite être efficace, ouais.
Mais le fait de sélectionner sur un 5 minutes fait que 5 minutes, ça, souvent, la plupart des artistes me disent mais 5 minutes, c'est rien. Sauf que tenir 5 minutes avec une efficacité, c'est extrêmement difficile. Et en ça, déjà, le fait de faire un repérage sur un 5 minutes, ça nous permet de voir un peu la dynamique de travail, de remise en question. Donc c'est et l'idée des auditions qu'on organise, c'est pour alimenter ce qu'on appelle le trempoin, qui est la scène découverte du point virgule.
Joli jeu de mots, discret,
voilà,
mais joli.
Absolument.
Tu passes bien.
Et
c'est pas drôle, drôle.
Mais c'est efficace.
Je ne suis pas responsable de tout. Et l'idée, c'est justement, on propose aux artistes sélectionnés de venir sur ce trempoin, de présenter un sketch, puis deux, puis trois, et on instaure un climat de travail, de confiance. Et petit à petit, en général, au bout de deux mois, trois mois, il y a déjà une demi-heure, trois quarts d'heure. Et
on n'est pas loin du radio crochet, du télé crochet.
Voilà, mais plus sur le temps et d'accord. sur cette idée sur de durée. Confiance de travail. Mmh. Voilà, c'est vraiment l'idée du travail qui crée la relation.
Il y a une adresse, il y a un site internet sur lequel.
Le point virgule.com.
Sur lequel voilà. on peut laisser des
exactement.
Vidéos et éventuellement démarrer absolument. Sa carrière comme ça. Très bien. Merci Antoinette Colin d'être venu
à
ce micro.
Merci.
Tanguy Pasturo, ça va Tanguy ?
Mais ça va vous ?
Bon, très bien. Ah. Quand on gouverne, on doit mettre sa vie entre parenthèses.
Mais oui,
c'est vacances.
Mais
aussi.
Oui, c'est affreux, on peut même pas se défoncer. Le cornet en boîte comme Castaner et sortir sa langue tel un caméléon, sauf qu'il n'attrape pas de mouche avec, mais enfin des gens. Et le ski oublié, Macron a mangé une demi-patate à sa raclette partie avant de devoir rentrer pour cause de Champs-Élysées à sac. Donc carpe diem, ok, mais il faut faire autre chose comme métier.
On en parle avec Jérôme Commandeur et avec vous après les infos de midi.
À tout à l'heure.
Original avec Léa Cadeau-Boudel, Daniel Morin,
bonjour
Tom
Lilla.
Villa,
bonjour.
Jérémy Crédville, Tanguy Bassureau
bonjour.
Et notre invité Jérôme Commandeur.
Bravo.
Bravo monsieur.
Jérôme, qui est en tournée, qui est également au Casino de Paris, en tournée, mais c'est complet. En tout cas pour ce qui est de la date de demain à Lyon. C'est où à Lyon d'ailleurs ?
À la Bourse.
Très bien, oh, ça ne m'étonne pas. Il est au Casino de Paris à partir du 3 jusqu'au 21 avril.
Ouais, exactement.
Et puis sinon, Aix-les-Bains, Saint-Nary-sur-Mer, Nice, Marseille, les 23 et 24 mars prochains, Perpignan, La Grande Motte, Bourg-les-Valence, Béziers. Est-ce que vous êtes donné une date butoir, entre guillemets, pour ce spectacle qui a plus d'un an d'existence
non.
Ou est-ce que...
Non, parce qu'en fait, on va repartir en tournée comme ça.
D'été
ça... Non, tournée...
Non, je suis en vacances, monsieur.
Ouais. Non, je fais autre chose, je tourne mais pour le cinéma. Non, non. Fin novembre jusqu'à mi-février.
Y aura 2020.
Une, 2020, voilà. Et il y aura une tournée avec une tournée de Zénith. Voilà. Y aura beaucoup de Zénith à Nantes. Ils sont déjà à la vente.
Et alors, pardon, ces grandes salles pour faire des spectacles d'humour qui sont justement extrêmement intimes, puisque vous adressez aux personnes dans le public, puisque vous croisez des regards.
Mais c'est un vrai souci. Oui. Enfin, c'est une contrainte, alors qu'il faut essayer de effectivement à laquelle il faut réfléchir. Alors ça peut être soit des écrans, ça peut être soit une
on change la mise en scène, on occupe l'espace différemment.
Ouais, on l'occupe différemment et puis c'est vrai qu'il y a des choses moi j'ai démarré à la Gaîté Montparnasse, c'est un très beau théâtre de 400 places mais évidemment là on peut faire les mimiques, on peut poser des silences etc., ce qui est moins le cas.
Oui, puis en deux pas on est derrière le rideau pour s'essuyer le front, ce ne sera pas le cas au Zénith.
Non,
là il faut prendre une trottinette électrique hein, pour aller s'essuyer le front.
Exactement. Mais c'est un autre exercice, c'est un autre type de spectacle. Et en même temps, alors il y a des gens qui aiment moins, mais moi je trouve que c'est aussi très agréable. Moi, les fois où j'ai vu que ce soit Franck Dubosc ou Florence Foresti ou plein de gens dans ces grandes salles-là, c'est un grand rendez-vous, c'est une fête, c'est autre chose. Mais je trouve ça très plaisant aussi. Quand on est au milieu de 3000 personnes qui se marrent, ben, c'est un autre spectacle, mais c'est très agréable.
Jérôme Commandeur, tout en douceur et tout en tournée. Voici Tanguy Passion. Pour rien au monde, Tanguy, je ne serai ministre ou président.
Non,
savez.
Moi non plus, parce que ce sont les pires professions du monde. Même les top modèles embauchés par des iguales pour porter leurs fringues à fleurs à gros pistils. Quand habillé comme ça, vous croisez Stéphane Marie de Silence ça pousse, celui-ci essaye de vous bouturer. Ont une vie plus sympa. Prenez Christophe Castaner. Il a eu une existence pourrie. 30 ans au PS, le parti qui a généré Hollande et Valls, les pliques et ploques de la loose. Il a été chef de cabinet de Michel Sapin, l'un des mecs les moins enthousiasmants de l'histoire avec Gilles de Rais du point de vue des enfants. Il y a encore 5 25 ans, il portait la nuque longue et un bouc. Sur sa fiche mythique, il y avait marqué moins 70%. S'il n'est pas parti dans les 4 jours, on le fout à la SPA avec les épagnols. Et là, miracle, il y a 6 mois, Gérard Collomb, le seul humain avec Régine qui va vivre 200 ans comme l'oursin rouge géant du Pacifique. Mais en plus humide, puisque l'oursin rouge n'a pas de prostate. On voit tout valser et Castaner se retrouve à l'intérieur. Le ministère des mâles alpha qui sont tellement durs que leur corps entier devient un symbole phallique. Sauf Sarkozy à l'époque qui rappelait juste un sextoy de poche coincé en position rapide. Donc là, en 2 semaines, Castaner qui était jovial, c'était le bon pote avec qui on avait envie de jouer à chien des douanes bite. C'est comme Chabit, mais quand on bosse à l'intérieur. Eh ben, devient irascible. Quand un gilet jaune passe devant sa berline de fonction, il crie à son chauffeur, mon brave, passez la troisième, éclatez-moi ce gueux. Or ça, les mecs durs, qui ressemblent à petit ours brun comme Castaner, mais ont développé un mandal à la Chuck Norris. Ça plaît aux femmes. Les types sensibles comme moi qui refusent de bouffer du madrange parce qu'on tue des petits porcs et écoute Joy Division rouler en boule. Elles s'en tapent. Mais Castaner, tout le monde a envie de lui faire l'amour. Même moi qui déteste les mecs quand je me balade place Beauvau, j'ai tellement de papillons dans le bide que je suis sur le point de m'envoler. Puis un garde me dit, dégage connard. Je réponds, eh oh, vous savez qui je suis? Il me dit, pas du tout. Je lui réponds, pas grave, j'ai l'habitude. Hein, mais bon, waouh, Castaner, il est trop viril, c'est Daniel Morin sous stéroïdes. Il me demande, il t'a tapé dans l'œil? Je réponds oui. Il me dit, bah t'es pas le seul à qui il a fait ça dernièrement. Bref, Castaner qui menait une vie atroce, la même qu'aurait Franck Provost si la coupe d'Eddie de Pretto se généralisait à l'ensemble de l'Hexagone. Peut enfin, à 53 ans, jouer les lovers, aller en boîte seul, rentrer à deux. Il faut qu'il en profite parce qu'il dort 4 heures par nuit. Donc d'ici 8 ans, il ressemble à Jean Benguigui s'il s'était fait écraser par un bus. Et ben même là, alors qu'il tient sa revanche sur la vie, il a encore en tête la fois où en 6e, Cécile Sanchez avait refusé de lui rouler une pelle. Il en avait gardé une aversion profonde pour les tâches manuelles. Bah, la seule fois où en boîte, il conclut sous GHB avec une dame défoncée qui lui dit « Alors c'est toi Nemo, je t'imaginais plus poilu », il faut qu'on lui reproche. Nous qui sommes pas ministres, on fait ce qu'on veut. Là, Jérôme Commandeur peut sortir la Heineken, tandis que Crédville et moi, on roule des 7 feuilles. On dira « Ça va, ce sont des artistes hein, ». Laurence Bloch, directrice de la station, nous fera bah un oui. peu la leçon avant de hurler « Allez, c'est qui me file une latte ?» Mais ministre de l'Intérieur, on peut rien faire, Nagui, y compris de son corps.
Et pareil pour le président Emmanuel Macron, lui aussi a eu un week-end frustrant.
Mais bien sûr, mettez-vous à sa place. Pendant 2 mois, il a écouté des gens parler. Il a fait plus de réunions en 60 jours qu'on en a fait en 200 ans d'existence de la préfecture de la Nièvre. Donc vendredi, il dit à son épouse, Bribri, mon canari en vuitton, que j'aime presque autant que moi-même, j'en peux plus d'entendre les doléances des gens en souffrance. On part en week-end. Enfin, c'est humain. Hein, là, ils réfléchissent, se disent, bon, la situation sociale est tendue, on va faire un truc simple, humble. Paf, il décide d'aller au ski à la Mongie. Je pense que leur agent de voyage se drogue parce qu'en décembre, en pleine crise gilet jaune, ils étaient descendus à Saint-Trope, hein, qu'on définit comme le temple du bling-bling. Jusqu'au jour où on voit Patrick Bruel parasé y jouer au boule en short à poche et on finit par lui filer un ticket resto. Ils disent encourage mec, tu vas t'en sortir. Résultat, samedi, alors que les mecs défoncent tout sur les Champs-Élysées, sur BFM, on diffuse les images du Fouquet qui brûle et l'autre moitié de l'écran, on voit Macron en doudoune à la neige avec le sourire du Saint-Bernard qui aurait sifflé sa gnôle. Un niveau com, il faut la durée de 3 vies d'Edouard Balladur pour rattraper ça. Du coup, Macron a été contraint de rentrer à Paris. Il a assisté à une cellule de crise samedi soir, 6 heures après les faits. Hein, sur les champs, il y avait juste les équipes de nettoyage en train de passer le balai. Macron, c'est l'équivalent français de Marie Kondo de la série L'Art du Rangement sur Netflix. Ensuite, il est allé voir Castaner. Il l'a aidé à vomir parce que l'autre revenait d'un trip à Ibiza, hein, la soirée folie de Bob Sinclair à l'amnésia. Bref, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que quand on est aux responsabilités, on est obligé de mettre sa vie perso entre parenthèses. Regardez Bouteflika. 20 ans qu'il... 20 ans qu'il est élu, bah il se convie de manière exemplaire, il bouge pas, hein, il va pas au ski lui. Et pas seulement parce que si on le lance sur la piste noire, le seul qui pourrait l'arrêter c'est un sapin vu qu'il végète. Donc aux jeunes épicuriens un peu ouf qui nous gouvernent, je dis ceci, maximum une partie de scrap sur les 3 années qui restent et on passe l'éponge. Merci.
Merci Tanguy Fonction. La bande originale, Nagui. Jérôme Commandeur est notre invité. Nous évoquons tout en douceur son spectacle qui a commencé il y a à peu près un an et qui va se poursuivre dans à peu près un an.
On est vraiment
à mi-parcours, tout en douceur au Casino de Paris et en tournée. Avec, alors oui, vous dites, et c'est vrai que vous êtes un artiste de plus en plus sollicité par des associations. Vous dites que vous aussi vous intéressez aux grandes causes et qu'il fallait bien trouver une grande cause qui n'était pas forcément utilisée. Certains, comme Thierry Lhermitte, son parrain de la fondation passion pour la recherche médicale.
Ouais, c'est vrai.
Vous, vous avez choisi les Vosges.
Oui. La région.
C'est tellement drôle.
Oui, oui. Non, mais alors,
c'est vrai qu'il faut aider les Vosges, on n'en parle pas.
Faut aider les Vosges. Non, mais voilà. Donc, parce que je les ai vus, ils se sont dit bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? On va essayer de faire un audit. Donc, on va aller voir un peu comment ça fonctionne dans les autres montagnes. Et puis, s'il y a des recettes qui fonctionnent, on va les importer chez nous. Puis, on va comprendre pourquoi ça merde. Donc, ils sont
les Pyrénées, ça marche bien.
Voilà, ils sont allés voir les Alpes, ils sont allés voir les Pyrénées, alors qu'ils nous font chier avec leur expression, on est entre mer et montagne. Ça va un peu plus. Pyrénées, entre mer et montagne.
Mais c'est tellement vrai. Mais voilà. C'est tellement ça.
Et après, ils sont allés voir le Massif Central. Alors, là, tu fais les volcans endormis. Alors, le volcan endormi, c'est simple. C'est un petit volcan qui a du, pour crachouiller un truc, qui a 17 000 ans, puis depuis fait dodo.
Et là, on nous prend un peu pour des cons, vous
voilà,
dites.
Voilà, voilà. Et puis, toi, tu vas venir le visiter. Maintenant, tu vas passer par le guichet, parce que c'est 34 euros.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et puis, voilà. Puis après, alors, ça, par contre, je peux pas le dévoiler, mais ils sont revenus dans les Vosges et ils se sont dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait voilà. bien faire?
Et ça, c'est le moment qui pique. C'est le moment qui pique. L'un des moments qui ouais. pique les yeux. Vous notez beaucoup de choses, vous vous baladez avec un papier, un crayon sur votre smartphone,
ah oui.
vous notez,
oui, parce que
vous observez de la vie.
Oui, je me suis déculpabilisé parce qu'avant je me mettais, je sais pas comment font mes camarades, mais je me mettais devant l'ordi, puis alors c'était la page blanche, et puis alors moi je buvais un coca, bon, quand même, là, puis après je me dis tiens, je vais aller grignoter un petit truc, et puis après.
C'est bien pour le régime légumes, ça.
Oui, voilà, puis après 18h, 18h30, bon, j'ai bien travaillé, voilà, apéro, bon, bref, donc, bref, c'était absolument. Et donc maintenant, je fais mes petites courses, je fais mon petit Leroy Merlin, je fais mes petites choses.
Une petite passion bricolage.
Mes petites passions bricolage. Ouais. Je vais changer mes petites ampoules et j'ai mon petit smartphone. Et quand j'ai une idée, je la note et voilà. Donc j'ai appris à me découvrir dans le travail. Uh-huh. Et maintenant, j'assume que j'ai plus besoin de me mettre devant l'ordi.
Il vous plaît bien ce téléphone. Hein. Vous parlez de la magie du smartphone dans le spectacle aussi.
Oui, oh, c'est un lieu quand même parce qu'il y a beaucoup de. Mais non, mais ce que j'aime pas, c'est le fait de tout jeter à la poubelle. Alors aujourd'hui, c'est super, hein, un smartphone. Enfin, franchement. Regardez, il y a 20, 25, 30 ans, on savait pas si le copain à qui on donnait rendez-vous dans le café était parti, rentré, dès que tu sortais,
mort.
Voilà, mort. Et puis tu rentrais dans une cabine téléphonique, et puis tu mettais la pièce dans la fente, tu savais pas qui appeler, puis tes yeux restaient bloqués sur l'inscription légionnaire salope, peut-être avec sa grosse bite dans les chiottes de la gare du Nord. Je dis, il passe mieux le petit coup de fil au chaud dans la bagnole quand même, c'est quoi qui déglingue.
Mais c'est vrai qu'il y a deux manières de voir la vie. Ceux qui disent c'était mieux avant et ceux qui disent on faisait comment avant.
Ben oui. Oui, puis finalement, avant, c'est pas grave, c'est fini.
Et on fera,
c'est
du passé. Et on se débrouillera toujours.
Ben oui, 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 on se débrouillera toujours. Et puis surtout, le fait de se dire, même s'il y a des difficultés pour plein de gens, mais on n'est pas si mal lotis, c'est quand même pas mal, voilà, tous les outils qu'on a à notre disposition aujourd'hui.
Quand vous écrivez sans savoir comment un public va réagir, d'abord, est-ce que vous testez vos vannes sur, je sais pas, des potes? Est-ce que vous avez des
Alors moi, ça se généralise chez beaucoup d'humoristes et je trouve ça formidable, c'est de faire des tournées de café-théâtre. C'est-à-dire que vous prenez, moi j'en ai fait 50. Je suis allé dans, c'est ça, une trentaine d'endroits. Des fois, je restais plusieurs jours. Et vous allez partout en France, des petites salles de 50, 80 personnes. Et puis,
Être annoncé.
Si, bah.
D'accord. C'est pas des open mic non plus où on débarque comme ça en disant effet de surprise.
Tiens, non.
Il y a quelqu'un de connu qui débarque, on savait pas.
Non. Là, c'est mis à la vente et tout. Donc et après vous discutez avec les gens et vous fabriquez ça.
On devient fou non si vous demandez aux gens ce qu'ils ont pensé des vannes.
Non. Mais enfin le fait d'avoir un spectacle qui n'a jamais été testé. Sur 50 personnes comme ça de soir en soir,
comme un panel quoi, comme un...
ouais exactement. Et puis les gens, alors ils le savent hein, évidemment, et ils sont ravis parce qu'ils accompagnent une espèce d'accouchement quoi.
Ouais.
Pour savoir ce que sont des vannes qui n'ont jamais été testées ni approuvées, voici Daniel Morin.
Ah, moi aussi je t'aime.
La mise en valeur.
Eh oui, toujours.
Ouais. Oh là là. Ouais, on m'appelle Tapis Rouge, petit.
En tout cas, c'est aujourd'hui, en ce moment d'ailleurs, que le pape reçoit au Vatican le cardinal Philippe Barbarin, qui doit lui présenter sa démission. Une démission suite à l'affaire de pédophilie du curé, le père Prénat. Père Prénat qui abusait de plusieurs dizaines de scouts, quand même. Affaire que Monseigneur Barbarin, bien qu'au courant, a gardé secrète et ça, c'est pas bien. Tellement pas bien que la justice a condamné à 6 mois de prison avec sursis Philippe Barbarin pour son silence coupable. Comment ça se passe, ce genre de réunion? Élément de réponse. Entrez! Ah, c'est toi, Philippe!
Très Saint-Père, bonjour.
Bah alors, c'est quoi ces histoires?
Je viens vous présenter ma démission.
Me déconne pas. Tu vas faire quoi si t'es plus cardinal?
Je sais pas.
Bah, tu sais quoi faire à part des secrets, des signes de croix, des génuflexions, hein?
Rien.
En plus, t'es jeune, t'as à peine 68 ans, c'est super jeune pour l'église.
Oui, mais j'ai déconné quand même.
Bon, t'as oublié de dire un truc. Et alors? Ça va bien tout le monde.
C'est grave quand même, je mérite une punition.
Oui, bon, alors, ok. Tu vas t'occuper d'une église en Albanie pendant 2 ans, ça fera l'affaire. L'Albanie, c'est le tiers, voire le quart monde, personne connaît, c'est parfait. Tu vas m'évangéliser tout ça, style templier moderne. Allez, maintenant, tu me laisses, je dois prendre une douche, j'attends 2 nonnes thaïlandaises. Déçu de ne pas être puni comme l'espérait le cardinal Barbarin, en a rajouté.
C'est pas tout, Saint-Père.
Quoi encore?
Ça fait 15 ans que je fais pousser du cannabis et que je deal du shit à Lyon.
Quoi?
Je sais, c'est mal. C'est très mal, je mérite une punition exemplaire.
Du shit thérapeutique?
Non, du shit de défonce. Crucifiez-moi et après je démissionne.
Crucifié, non, c'est réservé à l'élite. Non, c'est clair, c'est pas bien de dealer, c'est pas bien, mais ça mérite pas non plus ta démission.
Une séance de fouet, alors?
Non, 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 on va corser la punition. Tu vas plus en Albanie. Je vais te nommer archevêque à Levallois-Perret. Tous les dimanches, quand tu vas confesser Balkany, là, tu vas voir ce que c'est que l'horreur dans ce qu'elle a de pire. Allez maintenant, laisse-moi, je me prépare pour mes nonnes. Mais on était encore loin du compte.
J'ai pas fini.
Quoi?
Pour me punir, ça fait 28 ans que j'ai des rapports avec Christine Boutin.
Non!
Si, je sais, c'est terrible, elle fait peur.
Mais non, t'es fou, elle est trop bonne, je suis jaloux. Et c'est du sérieux?
Non, mais on a quand même 2 enfants, Navila et Tom Villa.
C'est ce qu'on appelle la punition divine.
Je préférerais une séance de flagellation.
Non, 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 tu restes à Levallois, c'est déjà du lourd, crois-moi. Sinon, rassure-moi, c'est tout ce que t'as à te reprocher.
J'ai détourné du fric.
Oui, moi aussi, quoi d'autre?
Tous les jours, je joue à n'oubliez pas les paroles en me caressant.
Oh, c'est très sale. Allez, je fais comme si j'avais rien entendu. Quoi d'autre?
J'ai vu le spectacle de Jérôme Commandeur.
Quoi? Cette fois, tu as commis l'immonde.
Je sais, et depuis, j'ai envie de devenir un ours.
Ah! Tu me dégoûtes. Ah, tu es la honte de l'église. Ta démission est acceptée, effective sur le champ. Oh, tu me laisses ta carte de cantine, ta soutane. Tu es exclu du compte Grindr du Vatican. Et tu dégages. Maintenant, pour tous ceux qui n'ont pas compris pourquoi le pape a si vivement réagi quand Philippe Barbarin lui a avoué qu'après avoir vu le spectacle de Jérôme Commandeur, il voulait devenir un ours, allez voir le spectacle et vous comprendrez. Oh, à demain.
Je voudrais demander à Daniel, comment on travaille la voix de Philippe Barbarin?
C'est un ami. C'est un ami.
C'est ton travail absolu.
C'est juste
ton,
ça.
C'est ton père, surtout.
Pardon.
Ah, il fallait pas le dire. Jérôme Commandeur, les médias, vous connaissez bien, la télévision, la radio aussi. Vous avez souvent pratiqué. Vous avez repris les commandes de Burger Quiz avec plaisir. Et pas que pour vous, d'ailleurs, pour ceux qui regardent aussi. Mm-hmm. Ça veut dire que vous allez continuer ou c'est une alternance qui est déjà mise en place?
Ah non. Bah, a priori, on est une dizaine. On en a fait, je crois, 4-5 chacun. Mais oui. Alors, si jamais il me le propose, j'y retournerai volontiers parce que c'est génial. Enfin, on a tous eu à peu près la même réponse. C'est-à-dire que quand Alain Chabat, il vous appelle, il vous dit est-ce que tu voudrais? On dit, oh oui, même si c'est secouer les tapis, nettoyer les vitres.
J'ai l'impression que tu veux. Même comme candidat, Tom aussi, tu l'as fait.
J'ai eu la chance de le faire avec Jérôme aux commandes. Oui, tout à fait. C'est fou, en fait. Mais il y a 2-3 émissions un peu mythiques comme ça du PAF français.
Encore aujourd'hui, c'est ça qui est magique.
De se retrouver dedans, tu te dis, mais vraiment, mais moi, j'ai la boîte de jeux d'il y a 18 ans que j'avais eu pour un Noël et d'être candidat dans cette émission, c'est magique.
Voilà. C'est également le cas de Marina Rollman. Ouais. Vous avez toujours le track quand vous êtes sur scène, quand vous jouez, Jérôme?
Oui. Alors après, c'est le fait d'avoir travaillé le spectacle et puis que bon, globalement, je connais à peu près les réactions du public. Donc, mais c'est vrai que oui, ça met le track. Moi, ce que j'adore, c'est aller quelques secondes avant l'ouverture du rideau, écouter les gens.
La rumeur de la salle, vous voulez dire?
Ouais, voilà, exactement.
Et regarder par l'œilleton.
Oui, c'est ça. Alors, des fois, il y a un trou dans le rideau. Maintenant, comme c'est des salles nouvelles, les rideaux sont neufs, donc il y a plus de taux.
Non, il y a des caméras.
Il y a des caméras, mais surtout j'aime bien écouter le volume parce qu'en général, quand le volume de la salle est très fort, on se dit tiens ils ont envie de déconner, ils se parlent fort, alors on entend les portables, les bouteilles, les bonbons, les papiers, c'est rigolo quoi. Et puis en général, l'impression que je me fais est plutôt
bonne.
Est bonne.
Et le track à la télé, le track au César, vous l'avez?
Ah oui, c'est plus que
l'hommage,
ça.
L'hommage que vous avez rendu au César, totalement dingue. Pour une comédienne.
Oui, 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 que disparu. Disparu ouais. Le matin même. Le matin même. C'est quand même, ça, c'est pas rien. Ça, c'est la tuile. Mais,
Ouais, ou le hasard, le heureux hasard.
Oui, oui, oui. 102 ans, elle était partie trop tôt. Et fauché en plein vol. Enfin, fauché en plein vol. À 102 ans, on commence à voir la piste. Mais ah oui, oui, là, c'est
ouais. Ça pique aussi.
Ah ouais, ouais. Puis là, c'est vraiment... j'ai beau y avoir été souvent.
Un public particulier, quoi.
Ouais, ouais, c'est un public particulier. Et surtout qui est éclairé, parce que c'est capté pour la télé.
Donc, on voit tout le monde.
Donc, on voit tout le monde, ce qui n'est pas le cas dans une salle de spectacle.
Alors, vous serez encore éclairé, ou vous l'avez été, pour le film de Michel Denisot. Il est tourné ou pas encore?
Il est tourné, et a priori, il sort début novembre.
Toute voilà. Ressemblance toute sur ressemblance. L'univers de la télévision, du moins du journal de 20h, même s'il y a plusieurs journalistes de 20h qui sont concentrés en un.
Exactement. C'est Franck Dubosc qui joue ce présentateur, et c'est vraiment Splendeur et Décadence de la télé. C'est-à-dire que le jour du 11 septembre, le présentateur en titre est en train de faire des cochonneries dans un hôtel de luxe avec une jeune femme. Franck, qui est un peu le second, un peu timide, etc., prend le téléphone et dit au type « Non, non, on va démarrer par les incendies à Martigues », alors qu'on est quand même le 11 septembre 2001. Et de là s'ensuit 20 ans de carrière, enfin 18 ans de carrière fou, folle. Et moi, je suis son producteur, qui est assistant, et puis qui va gravir les échelons. Et surtout, lui mettre en scène un peu tous ses coups fourrés, lui alors, déminer les...
Comme...
Les coups dans Paris, etc.
Comme vous avez travaillé dans les médias et que vous êtes acteur aussi, en lisant le scénario, vous avez vraiment retrouvé cet univers de la télévision?
Oui, oui, oui. Bah oui, puis c'était écrit par Michel
ouais,
et
oui.
Denisot et puis sa co-auteur Karine Angeli. Ils ont fait un scénario qui est c'est pas drôle dans le sens, ça rappelle un peu 99 France, c'est trash noir et réaliste quoi.
Voilà. Et peut-être moins de drogue.
Oui, alors dans ce qu'il dit là-dessus, parce que c'est la question qu'on lui pose tout le temps, et qu'est-ce que vous avez pris? Il dit tout est vrai, mais je vous dirai pas d'où. Voilà. Mais tout est vrai.
Vous avez dit Catherine Angélil?
Karine Angélil.
C'est comme René Angélil, le même nom de famille.
Parce que oui.
Pas loin.
Oui.
Mais vous devez toujours jouer René ou pas?
Je devais. Et malheureusement...
Dans le biopic consacré à Céline.
Ouais, ouais.
Et Valérie Lemercier.
Voilà, c'est ouais. Valérie Lemercier dont on parlait tout à l'heure. Et il se trouve qu'elle elle a choisi de s'entourer de comédiens québécois. Ah. Donc là, je ne peux pas lutter.
Mais problème de budget.
Mais je n'ai pas... Ouais.
Et votre prochain film, celui que vous écrivez, celui que vous allez diriger?
Non, là je joue dans un film avec André Dusselier qui s'appelle La Grande Déraille. C'est une comédie familiale. En fait, on accompagne nos enfants et petits-enfants respectifs à la colo, au train à la gare de Lyon, ils partent dans un train qui n'est pas le bon, nous on doit rester à quai, on part dans un train qui n'est forcément pas le bon parce qu'on doit rester à quai, et donc il va falloir aller retrouver les gamins et surtout faire en sorte que les parents soient pas au courant qu'on a laissé s'échapper 8 ou 10 gamins de 10 ans dans un train et on sait même pas où ils vont.
Réalisé par
Benjamin Evrard, c'est un premier film.
Très bien. Des excuses à présenter, Daniel
Moreau. Oh, bien sûr. Désolé déjà pour les pervers qui nous écoutent et qui ont noté que dans sa tournée, Jérôme Commandeur enchaînait du 27 au 29 mars la Grande Motte, Bourg-les-Valences, Béziers. Non, c'est pas un code et rendez-vous partout en province, les gars. C'est vraiment, vraiment sa tournée. Alors je sais, ça fait très RMC, mais bon, c'est comme ça. Désolé pour Jérôme Commandeur qui a découvert, au début avec excitation, puis peu à peu avec angoisse, à quel point Leila Maniac Girl Boudadi connaissait sa vie par cœur, et encore, elle n'a pas parlé du digicode et du code de carte bleue. Et désolé enfin pour la femme de Nagui, les enfants de Nagui, les fans de Nagui, les employeurs comme les employés de Nagui qui ce matin ont vécu un événement troublant, étonnant, dérangeant, tambourinant, déconcertant.
Ça, c'est très intéressant ce que vous dites.
Oh là 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 là. Mais moi, j'en reviens toujours pas. Allez, on garde le son pour l'histoire, mais l'histoire avec un grand I.
Merci Jérôme Commandeur.
Et bravo Nagui.
Merci beaucoup.
Et c'est un bonheur de venir ici. À chaque fois que je viens ici, j'ai la banane. Je voulais utiliser une expression de Jones.
Oh là, attention.
C'est très France Inter, faites attention.
J'ai la banane.
Eh ouais, lui, il travaille sur une radio. Il y avait la pêche, hein, t'imagines?
Voilà,
il sera du 3 au 21 avril au Casino de Paris et en tournée partout en France avec son spectacle Tout en douceur. Demain, c'est Bruno Volkovitch qui sera notre invité.
Avec... C'est une autre limonade. Hein, là,
ça sera. On va rire aussi. Hein, cette mort sur ordonnance, je peux dire que c'est top à la déconne. Hein.
Et... En tournée dans toute la France.
Et tout de suite, les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Merci, Jérôme.
Oui, salut Nagui.
Bonjour.
Salut l'équipage. Parce que j'ai appris que tu voulais être pilote d'avion.
Oui. Commandant.
Oui,
commandant.
Tu es radionavigant, c'est pas loin.
Ah, bah, bien, PNC au poste.
Et chef de cabine, Leïla. Oh ouais. Puis dans le rôle du manche, Daniel.
Merci. Je vois que monsieur a fait mes vidéos.
Non mais c'est plus que c'était. Hein.
Salut les amis.
Ciao.